toi viendras-tu m'aider à bâtir en paix? Viendras-tu m'aider à cueillir les étoiles? Peur de moi, j'ai une échelle d'espoir.
CIL SFM, la voix de votre communauté.
Inauguration des nouveaux locaux de la Société francophone de Victoria et des nouveaux équipements de CILSFM lors d'un 5 à 7 le jeudi 27 avril au 12-18 rue Langlais, deuxième étage. Venez nombreux, des bouchées seront servies. Réservez avant le lundi 24 avril midi sur notre site internet francocentre.com.
Mercredi 26 avril et jeudi 27 avril, bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles de Victoria. Votre émission Le Débrief débute tout de suite à l'antenne du 107.9 FM. Mon nom est Alexis Gagnon, je suis en votre compagnie jusqu'à 17h. Bienvenue dans votre rendez-vous info qui va s'ouvrir avec les revues de presse internationales et nationales. Vous écoutez Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les 26 et 27 avril. Brexit, Theresa May reçoit Jean-Claude Juncker. L'Union européenne durcit sa position. La première ministre Theresa May recevait mercredi à Londres le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker pour des discussions sur le Brexit au moment où l'Union européenne durcit sa position sur les conditions de sortie des Britanniques du giron européen. Jean-Claude Juncker, qui était l'invité de la dirigeante conservatrice, était accompagné par Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne. Le ministre britannique en charge du Brexit, David Davis, participait également à cette rencontre. Celle-ci a eu lieu à quelques jours seulement d'un sommet des 27 à Bruxelles, un sommet destiné à fixer les lignes rouges dans les négociations. Autour d'un dîner de travail à Downing Street, les quatre responsables ont discuté du processus des négociations de l'article 50 à indiquer une porte-parole de la Commission européenne, Mina Andreeva. Il s'agissait de la première rencontre entre Jean-Claude Juncker et Theresa May depuis le déclenchement le 29 mars de l'article 50, point de départ de 2 ans de négociations à l'issue desquelles le Royaume-Uni fera ses adieux à l'Union européenne. La chef de l'exécutif britannique a déjà indiqué qu'elle souhaitait conserver une relation spéciale avec l'Union européenne, tout en optant pour ce qui est généralement présenté comme un Brexit dur, incluant notamment la sortie du marché unique européen. Dans les colonnes du journal Les Échos sur le portail leséchos.fr, Les Échos c'est un journal financier et économique, libre-échange, Trump pourrait négocier avec l'Union européenne avant la Grande-Bretagne. C'est une nouvelle qui a paru originalement dans le Times de Londres. Les États-Unis pourraient négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne avant de le faire avec la Grande-Bretagne, a rapporté il y a quelques jours le Times de Londres en citant des sources des deux côtés de l'Atlantique. Selon le Times, la chancelière allemande Angela Merkel a convaincu le président américain que les discussions avec l'Union européenne seraient moins compliquées que prévu et qu'il serait possible d'avancer sur ce dossier avant que Londres ne soit en mesure de négocier ses propres accords commerciaux après s'être libéré des obligations européennes. Et toujours à propos de ce voyage du président Trump en Europe, où il a rencontré Angela Merkel, la fille de Donald Trump a été huée lors d'une conférence à Berlin. Ivanka Trump huée à Berlin en défendant l'attitude de son père vis-à-vis des femmes. Invitée par Angela Merkel à une table ronde sur la place des femmes dans le monde, la fille du président américain Donald Trump s'est fait huée par l'assistance alors qu'elle récusait les accusations de misogynie contre son père. Ivanka Trump s'est retrouvée à défendre son père contre les accusations de misogynie dont il fait l'objet en raison de déclarations controversées. C'est une nouvelle qui paraît sur le portail de BFM et dans le portail de plusieurs autres médias. On poursuit cette revue de presse internationale avec une nouvelle aperçue cette fois dans le fil de l'AFP, l'agence France-Presse, toujours à propos du président Trump et de sa réforme fiscale cette fois. Trump propose la plus grande baisse d'impôts de l'histoire. Donald Trump dévoilait mercredi un projet de baisse colossale des impôts, notamment pour les entreprises désireux de lancer une nouvelle initiative choc avant son 100e jour au pouvoir, malgré les réserves de ses alliés républicains du Congrès. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a présenté en milieu d'après-midi un plan élaboré par l'administration dont il a donné les grandes lignes auparavant dans la matinée de mercredi. La Maison-Blanche va demander au Congrès de réduire le taux d'imposition des entreprises américaines à 15% au lieu des 35% actuellement. Le taux actuel est l'un des plus élevés des pays riches de l'OCDE, bien que le taux effectif soit souvent bien inférieur en raison des différentes exemptions et déductions. Ce sera la plus grande baisse d'impôts et la plus grande réforme fiscale de l'histoire de notre pays, a affirmé Mnuchin lors d'un événement organisé par la publication The Hill. Donald Trump, qui a pris ses fonctions en janvier, avait promis pendant sa campagne de réformer les impôts et de diminuer la charge fiscale pesant à la fois sur les entreprises et les ménages. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil de l'agence France-Presse. Trump propose la plus grande baisse d'impôts de l'histoire. Et à propos d'impôts aux États-Unis, cet article paraissant dans le portail Bastamag pourrait vous intéresser. Je vous donne tout de suite le titre qui en dit long. Aux États-Unis, un quart des impôts enrichit le complexe militaro-industriel. Autrement dit, un quart des impôts va à l'armement et à l'armée. C'est un article fascinant publié dans le portail Bastamag et signé par la journaliste Rachel Knabel en date du 25 avril. On poursuit cette revue de presse internationale avec un papier qui a paru dans le portail Mediapart, un portail indépendant à l'adresse mediapart.fr. FMI, le printemps fragile de l'économie mondiale. C'est signé par la journaliste Martine Orange. L'économie mondiale monte en puissance, se félicite le Fonds monétaire international, le FMI, soulagé de voir une sortie du marasme. La croissance mondiale devrait s'établir à 3,5% cette année et à 3,8% en 2018 selon les prévisions du Fonds monétaire international. Pourtant, tout reste fragile selon l'institution internationale. La montée des inégalités qui alimentent les populismes et le protectionnisme constitue un danger majeur pour l'avenir. Pour la première fois depuis 6 ans, le FMI a révisé toutes ses prévisions sur la croissance mondiale à la hausse. Selon ses estimations, la croissance mondiale devrait passer de 3,1% à 3,5% en 2017 et à 3,6% en 2018. L'accélération de la croissance attendue en 2017 et 2018 est généralisée, a noté un rapport publié par le FMI. Le rebond cyclique qui suit normalement une récession profonde favorise par une politique monétaire accommodante a été lent dans beaucoup de pays dans un contexte caractérisé par une réparation graduelle des bilans compromis et par l'affaiblissement connexe du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Le durcissement de la politique budgétaire dans beaucoup de pays entre 2011 et 2015 a freiné aussi la reprise après la crise, précise le FMI. Le FMI indique cet article de Mediapart qui renouvelle ses critiques désormais publiques contre les politiques d'austérité imposées dans la zone euro et un peu partout dans le monde. Donc les politiques d'austérité n'ont plus la cote au FMI. C'est de plus en plus confirmé suite à des rapports et des déclarations d'économistes qui travaillent pour cette institution. Le FMI s'oppose aux politiques d'austérité budgétaire, les juge nocives collective. C'est très intéressant comme développement. Et bien sûr, le FMI se réjouit de la croissance mondiale, mais qui dit croissance mondiale dit aussi dégâts écologiques mondiaux. C'est une variable qui n'est jamais prise en compte. Alors, il faut bien sûr y songer lorsqu'on lit ce genre de rapport. On va se transporter dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Express à présent. Le bouclier antimissile américain est arrivé en Corée du Sud, nous indique L'Express. Le bouclier antimissile américain s'appelle le THAAD. Voulu par Washington et Séoul, le bouclier antimissile est censé protéger la Corée du Sud des projets balistiques nord-coréens. Mais le projet suscite la colère de Pékin. En pleine période d'escalade diplomatique entre les États-Unis et la Corée du Nord, l'événement ne devrait pas faire retomber la pression. Les forces américaines ont livré ce mercredi à la Corée du Sud les premiers éléments du bouclier antimissile THAAD, THAAD, sur le site où il sera installé. La télévision sud-coréenne a diffusé des images de l'arrivée d'imposants camions militaires acheminant les éléments du THAAD, qui signifie par son acronyme Terminal High Altitude Area Defense. Alors, le THAAD a été installé sur un parcours de golf du comté de Seong dans le sud, à 250 km au sud de la capitale Séoul. Alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un semble vouloir doter son pays de missiles intercontinentaux et multiplie les essais balistiques, Washington et Séoul affirment que le THAAD mettra la Corée du Sud à l'abri de la menace de la Corée du Nord. On poursuit cette revue de presse internationale. Toujours en Extrême-Orient, la Chine lance son deuxième porte-avions en plein regain de tensions internationales. C'est rapporté par le journal Ouest France. Le deuxième porte-avions chinois a été officiellement lancé ce mercredi lors d'une cérémonie à l'occasion de la mise à l'eau du bâtiment, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. Le navire est le premier à être entièrement fabriqué en Chine. Pékin dispose déjà d'un porte-avions, le Liaoning, dont la coque avait été produite dans l'ex-URSS. Dans le fil de l'agence Reuters, à présent, nouvelles arrestations en Turquie après le putsch manqué de l'été dernier. Quelques 803 suspects ont été arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi en Turquie dans le cadre de nouvelles opérations visant des membres présumés du réseau de Fethullah Gulen, le prédicateur exilé aux États-Unis et accusé d'avoir orchestré la tentative de coup d'État de juillet dernier. La plupart des personnes arrêtées, précise-t-on de sources proches des services de sécurité, appartiennent aux services de police. Ceux-ci vont être transférés dans la capitale Ankara. Donc vous trouverez cette nouvelle dans le fil de Reuters. Damas est responsable pour l'attaque chimique, selon une enquête française. Autre nouvelle qui paraît dans le fil de l'agence Reuters. La responsabilité du régime syrien dans l'attaque menée le 4 avril contre la ville de Khan Cheikhoun en Syrie ne fait pas de doute compte tenu du procédé de fabrication du gaz sarin utilisé, a déclaré mercredi Jean-Marc Ayrault en présentant des résultats de l'enquête française. Cette attaque, qui a fait plus de 80 morts, dont de nombreux enfants, a suscité une vague d'indignation et d'émotion internationale et a conduit les États-Unis à riposter 3 jours plus tard en bombardant une base aérienne syrienne. Dans le site du quotidien français Libération, une nouvelle encourageante sur le plan environnemental, une larve pour lutter contre la pollution des plastiques, point d'interrogation. C'est un article signé par Petra Essenberger. Une étude, écrit-elle, démontre que les larves du ver de cire sont capables d'éliminer les plastiques difficilement biodégradables et de façon relativement rapide. Est-ce une solution contre la pollution des océans, se demande la journaliste. Elle poursuit, c'est le hasard qui a donné naissance à cette découverte. Un jour, l'apicultrice amateur Federica Bertocchini trouve des vers de cire. Problème, ses larves détruisent les ruches. L'apicultrice les retire et les jette dans un sac en plastique. Plus tard, lorsqu'elle découvre le sac criblé de trous, celle qui est aussi chercheuse au Centre espagnol de la recherche nationale comprend qu'elle vient de faire une découverte à caractère scientifique. Cette larve était élevée commercialement et utilisée auparavant par les pêcheurs. Son appétit pour le plastique est une bonne nouvelle pour la pollution maritime. Vous trouverez cet article sur le portail de Libération, une larve pour lutter contre la pollution des plastiques. Voilà qui complète vos infos de la revue de presse internationale pour les 26 et 27 avril. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans un instant avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute du débrief des 26 et 27 avril. Nous entamons à présent la revue de presse canadienne. Faut-il craindre l'arrêt Jordan? C'est un papier qui paraît dans l'hebdomadaire L'Actualité. La décision de la Cour suprême réaffirme l'importance du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, une garantie protégée par la Charte canadienne des droits, rappelle dans cet article l'avocat criminaliste Walid Ijazi. Alors, c'est une tribune de Maître Walid Ijazi à propos de l'arrêt Jordan. Je vous en lis quelques lignes. Il est impossible de passer 5 minutes dans un palais de justice sans entendre parler de l'arrêt Jordan par lequel la Cour suprême du Canada a fixé des plafonds à la durée des procès criminels. Le jugement du 8 juillet dernier a eu l'effet d'une bombe. Tout le système de justice doit s'ajuster aux nouvelles règles. Les demandes en arrêt de procédure pour délai déraisonnable se multiplient à une vitesse fulgurante. Pour le public, certaines libérations ont soulevé l'indignation, comme celle de cet homme accusé d'avoir poignardé à mort sa femme et celle des co-accusés de l'ancien maire de Laval, Gilles Valliancourt, au Québec. Rappelons ce que dit l'arrêt Jordan, écrit Maître Walid Ijazi dans cet article. Lorsqu'un procès est poursuivi par voie sommaire, une procédure accélérée sans enquête préliminaire, il ne doit pas s'écouler plus de 18 mois entre la première comparution à la cour et la fin du procès. Si le poursuivant procède par acte d'accusation avec enquête préliminaire et potentiellement procès devant jury, le délai maximum est de 30 mois. Si des délais sont dépassés, la poursuite doit faire valoir des circonstances exceptionnelles pour justifier le retard, à défaut de quoi le juge ordonnera la libération de l'accusé. Il est impossible d'énumérer a priori toutes les circonstances qui peuvent être qualifiées d'exceptionnelles, mais elles concernent généralement des événements hors de contrôle de la poursuite comme la maladie ou un imprévu lors du procès. L'arrêt Jordan, poursuit cet avocat, réaffirme l'importance du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, une garantie protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Nos droits fondamentaux, dits constitutionnels, sont tous égaux entre eux. Ainsi, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est aussi important que le droit à la vie, le droit à la liberté de conscience et le droit à la liberté d'expression. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est par ailleurs intimement lié à la présomption d'innocence, poursuit l'avocat. C'est une valeur sacro-sainte en démocratie. L'État ne peut accuser quelqu'un et le laisser attendre des années avant de savoir si la justice le considère comme une personne condamnable ou innocente. Des accusations criminelles peuvent entraîner des conséquences graves chez un accusé et sa famille en matière d'emploi, de vie sociale, de santé physique et mentale. Pire encore s'il demeure détenu dans l'attente de son procès. La Cour suprême a été claire. La gravité de l'infraction n'est pas un facteur pertinent dans l'évaluation des délais. Nous sommes tous égaux face à la loi et il est hors de question de travestir les règles parce que l'on pense qu'un individu est pire que les autres, tel un présumé meurtrier. Ce texte est vraiment fascinant, je vous le recommande. La conclusion de l'auteur, c'est que la Cour suprême du Canada n'avait pas le choix de rendre ce jugement choc, donc à propos de l'arrêt Jordan, en juillet 2016. Et je vous rappelle le titre, « Faut-il craindre l'arrêt Jordan ?» C'est signé par l'avocat Walid Ijazi, qui est criminaliste, et c'est dans le portail de l'hebdomadaire L'Actualité. On poursuit cette revue de presse nationale en se transportant dans les pages du journal Le Devoir. C'est un texte signé par Denis Ferland intitulé « On passe aux choses sérieuses ». Après une semaine de déclarations retentissantes et plutôt réductrices de la part du président Donald Trump sur le secteur laitier canadien tout d'abord et sur le bois d'œuvre et même l'énergie, une première mesure vise directement le Canada, écrit Denis Ferland. Sur tous ces fronts, le gouvernement Trudeau avait préparé le terrain depuis des semaines avec des missions, rencontres et campagnes diverses tant à Washington que dans des États vus comme des alliés potentiels. En vain, semble-t-il, mais il n'est pas évident que le prix à payer sera si lourd. Plusieurs intervenants, poursuit Denis Ferland dans cet article du Devoir, tant au Canada qu'aux États-Unis, et d'autres experts ont dédramatisé les sorties les plus virulentes du président Trump la semaine dernière, alors que celui-ci accusait le Canada d'avoir traité de manière disgracieuse les fermiers américains. Tactique de négociation de Trump ou encore diversion au moment où son gouvernement arrive à l'échéance des 100 premiers jours avec un bilan plus que mitigé? Probablement un peu des deux, estime Denis Ferland dans cet article, quand on tient compte du personnage auquel on a affaire. On va rester dans les pages du journal Le Devoir. Liberté de presse, le Canada perd des plumes. Le pays passe au 22e rang dans l'index de Reporters sans frontières. Le Canada perd encore des places dans le classement par pays sur la liberté de presse dans le monde, en chutant de la 18e place en 2016 à la 22e place en 2017. Le Canada se retrouve maintenant entre Samoa et la République tchèque, la Namibie, l'Uruguay et le Ghana, qui occupent les positions suivantes. Le Canada était au 10e rang il y a 2 ans. La nouvelle chute de 4 places s'explique notamment par la mise sous surveillance de journalistes par des corps policiers du Québec et un ordre de cour obligeant un reporter du média Vice à révéler ses sources à la Gendarmerie royale du Canada. Le justificatif de l'organisme Reporters sans frontières évoque aussi l'absence d'une loi parapluie pour protéger le travail des médias et la surveillance légale des activités en ligne des citoyens. Le rapport annuel de l'organisme Reporters sans frontières était divulgué cette semaine dans 5 capitales, Paris, Londres, Washington, Tunis et Rio. L'analyse révèle une détérioration générale des conditions d'exercice du journalisme, et ce à l'échelle planétaire. Jamais la liberté de presse n'a été aussi menacée, s'est alarmé Reporters sans frontières en évoquant les attaques anti-médias, les fausses nouvelles, les fake news si vous préférez, et le triomphe politique de personnalités politiques à la Donald Trump, fortement hostile à la presse. Cette nouvelle paraît dans tous les médias sur la planète. Vous la trouverez dans les pages du Devoir sous la plume du journaliste Stéphane Baillargeon. Liberté de presse, le Canada perd des plumes. Un vice-amiral canadien aurait coulé de l'info à un constructeur de navires. C'est une nouvelle qui paraît dans le fil de la presse canadienne. Un haut dirigeant de l'armée aurait coulé de l'information confidentielle à un constructeur de navires pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il accepte un contrat de 700 millions de dollars, affirme la GRC. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil de la presse canadienne. Toujours dans le fil de la presse canadienne, possession simple de cannabis, Thomas Mulcair accuse Trudeau d'hypocrisie. Thomas Mulcair accuse Justin Trudeau de faire preuve d'hypocrisie en refusant de prévoir une amnistie pour les Canadiens accusés de possession simple de marijuana, alors que le député de Papineau, Justin Trudeau, a lui-même admis qu'il avait déjà fumé sans être aucunement embêté ensuite par la justice. Alors que le gouvernement canadien s'apprête à légaliser le cannabis, peut-être d'ici l'été 2018, le nouveau Parti démocratique réclame une amnistie pour ceux qui sont actuellement accusés de possession simple sans intention de trafic. Le chef néo-démocrate Thomas Mulcair dénonce le fait que Justin Trudeau, qui a admis avoir fumé de la marijuana alors même qu'il était député à la Chambre des communes, persiste à vouloir traîner en justice les Canadiens qui se sont fait prendre avec quelques grammes de marijuana. Dans le journal Le Soleil au Québec, on nous signale que l'Université Laval a une nouvelle rectrice. Il s'agit de la première femme à occuper ce poste. Pour la première fois de son histoire, l'Université Laval place une femme à son comité de direction. Sophie Damour, ex-vice-rectrice à la recherche à la Faculté des sciences et du génie, a été élue rectrice cette semaine avec plus de 50% des voix du collège électoral. On a un article fort intéressant sur les inventeurs canadiens aperçu pour vous également dans cette revue de presse nationale. Ça s'intitule « Ces inventeurs canadiens qui ont changé le monde ». C'est sous la plume de la journaliste Alexandra Sagan. Je vous recommande chaudement cette lecture. C'est dans la presse canadienne. Et dans l'espace autochtone du portail de Radio-Canada, un beau portrait de Joey Junot, cet ancien joueur professionnel de la Ligue nationale de hockey, qui a mis sur pied un programme de hockey pour les jeunes dans le Nunavut. Malheureusement, Joey Junot a vu les ressources de son programme subir des compressions récemment et il signe une tribune justement dans le portail autochtone de Radio-Canada. Ça s'intitule « Hockey au Nunavik, un baume sur le cœur de Joey Junot ». On signale également cette conférence de presse du ministre Marc Garneau qui devait annoncer mercredi la loi sur la sécurité ferroviaire. On y reviendra bien sûr dans le débrief aussitôt que ce sera connu. Ici se conclut la revue de presse canadienne. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Après les revues de presse internationales et nationales, voici la rubrique Francophonie pour les 26 et 27 avril. Cette nouvelle apparaît sur le portail de la télévision francophone de l'Ontario, TFO. TFO.org. Le poète franco-ontarien Michel Dallaire s'éteint. C'est un article qui est signé par Benjamin Vachet. L'auteur franco-ontarien Michel Dallaire s'est éteint le 24 avril à l'âge de 60 ans. L'annonce a été faite sur les médias sociaux par Adja Lucien, une proche de Michel Dallaire. Auteur de plusieurs recueils de poésie, de romans et d'un recueil de nouvelles, Michel Dallaire avait également produit 3 albums de poésie en collaboration avec Daniel Bédard. À titre de parolier, il avait aussi écrit des textes de chansons pour plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes, dont Steph Paquette. Son 6e livre, intitulé « Violoncelle pour lune d'automne », avait été publié en 2014 aux éditions L'Interligne. Le travail de Michel Dallaire lui avait valu plusieurs reconnaissances. En 1995, il avait notamment reçu le prix de la meilleure nouvelle de science-fiction de l'Université d'Ottawa, une nouvelle qui était intitulée « Dans ma grande maison folle ». Et il avait également reçu d'autres prix que cite Benjamin Vachet dans cet article. En réaction à cette disparition, le poète franco-ontarien Éric Charlebois s'est dit très touché. C'est une très triste nouvelle, a-t-il dit, qui intervient d'ailleurs très soudainement. Comme lecteur et comme personne, j'ai eu la chance de connaître Michel. C'était une personne très réservée que j'ai appris à connaître quand j'ai habité Sudbury au début et à la fin des années 90. Ce qui était étonnant puisque nous venions tous deux de la petite ville de Hawkesbury. Michel faisait partie de mes idoles et j'avais lu tous ses livres. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur d'utiliser différentes formes d'art pour aborder ses thèmes, mélangeant le récit, la poésie et la musique, ou en travaillant avec des artistes visuels. C'est une grande perte pour l'Ontario français et pour le milieu littéraire. Même s'il l'a moins connu personnellement, le directeur général de l'Association des auteurs et des auteurs de l'Ontario français, Yves Turbide, n'a pas manqué de rendre hommage au poète franco-ontarien. C'est une immense perte pour le milieu littéraire franco-ontarien, a-t-il dit. Son absence va se ressentir pour de nombreuses années et toute la communauté est sous le choc. Les hommages se sont également multipliés sur les médias sociaux. Vous trouverez cet article sur le portail tfo.org. Je rappelle le titre « Le poète franco-ontarien Michel Dallaire s'éteint ». C'est écrit par le journaliste Benjamin Vachet. C'était notre nouvelle à thématique francophone pour les 26 et 27 avril dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
À trembler, distiller des fleurs fanées, accrochées au rêve d'été. Le bout de notre survie jusqu'au bout des doigts. Le cœur est un funambule à l'envers, à l'endroit. Pourvu que toi et moi, on reparte de plus belle. Avec l'espoir au bout des lèvres qui diront la vie. Et si on retombe? Prendra pas la prochaine sortie. Et si le ciel gronde, l'horizon s'assombrit. Autant aimer la pluie. À ta santé, à la joie.
au moins jusqu'à la prochaine fois. À ta santé, à la joie. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Balayer, balayer les. Tous les je t'aime tomber sur le plancher. Emporter, emporter les. Les vieux regrets que l'on trinque enfin à notre santé. Et si on retombe, et si on s'oublie, prendra pas la prochaine sortie. Et si le ciel tremble, l'horizon s'assombrit. Autant aimer la pluie. À ta santé, à ta joie. Au moins jusqu'à la prochaine fois.
Nous écoutions à l'instant l'artiste Monsieur Raph avec la pièce Aimer la pluie. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Vous écoutez l'émission Le Débrief. L'information se poursuit. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. Alors, on entame tout de suite cette revue de presse provinciale des 26 et 27 avril avec une nouvelle qui paraît sur le portail de Radio-Canada. Trump et le bois d'œuvre secouent la campagne électorale. En pleine campagne électorale, les politiciens de la Colombie-Britannique promettent de se battre contre la décision des États-Unis d'imposer des droits compensateurs de 20% en moyenne sur les exportations canadiennes de bois d'œuvre. La mesure américaine touche particulièrement la province puisqu'elle est la plus grande exportatrice canadienne de bois d'œuvre vers les États-Unis. La première ministre sortante Christy Clark a suspendu sa campagne mardi matin. Elle a appelé son cabinet à discuter des moyens à prendre à la lumière de ce nouveau conflit qui se dessine avec les voisins du Sud. Nous défendrons les travailleurs forestiers de la Colombie-Britannique et les communautés en combattant avec tous les outils à notre disposition cette action commerciale injustifiée, a déclaré Christy Clark dans un communiqué. Le NPD, quant à lui, a fustigé l'inaction des libéraux de Christy Clark. Le chef du nouveau parti démocratique, John Horgan, a lancé une flèche à sa rivale libérale. Elle n'a pas traité ce problème avec l'urgence qu'il mérite. À cause des retards et de l'inaction, des milliers de travailleurs risquent maintenant de perdre leur emploi et leur gagne-pain. Le BC Lumber Trade Council, qui représente les entreprises du secteur du bois d'œuvre, déplore lui aussi les mesures américaines. Les allégations faites par le lobby américain du bois d'œuvre sont les mêmes arguments que dans les autres rondes de litiges qui ont toutes été renversées par les jurys indépendants de l'ALENA, écrit le BC Lumber Trade Council dans un communiqué. Donc, vous trouverez cette nouvelle sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique sous la plume de Fanny Bédard. Le titre « Trump et le bois d'œuvre secouent la campagne électorale de Colombie-Britannique ». Toujours dans cette revue de presse de Colombie-Britannique, extraction gazière, les émissions de méthane ont été sous-estimées, selon une nouvelle étude. La pollution par fuite de méthane provenant de l'industrie gazière et pétrolière de Colombie-Britannique serait 2,6 fois plus élevée que les chiffres officiels du gouvernement provincial, selon un rapport que Radio-Canada a obtenu. Ce texte paraissant sur le portail de Radio-Canada est signé par Francis Plourde. Il se poursuit en ces mots. L'étude effectuée par des chercheurs de l'Université Saint Francis Xavier en Nouvelle-Écosse et de la Fondation David Suzuki soulève des questions sur les méthodes de calcul des gaz à effet de serre en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du Canada au moment où le pays tente d'atteindre les cibles de réduction fixées par l'accord de Paris. L'étude, sur le point d'être publiée dans le journal scientifique Atmospheric Chemistry and Physics Discussions serait la première au Canada à étudier sur le terrain les émissions fugitives, des émissions secondaires qui sont dégagées de façon intentionnelle ou non par l'industrie gazière ou pétrolière. Pendant 2 mois, en 2015, les chercheurs ont circulé dans le secteur de Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, dans des véhicules équipés d'instruments de détection des gaz. C'est dans cette région que se produit la majorité de l'extraction gazière de la province, principalement par fracturation hydraulique. Au total, les chercheurs ont franchi 8000 km et observé plus de 1600 infrastructures gazières et pétrolières, certaines abandonnées, d'autres toujours en activité. Les chercheurs sont revenus en 2016 pour visiter les installations à l'aide d'une caméra à infrarouge. Cette caméra a permis de valider les données précédentes et d'identifier la provenance des fuites de gaz. Donc, le titre de cet article, Extraction gazière, les émissions de méthane ont été sous-estimées selon une nouvelle étude. Un article qui paraît dans le journal La Croix, quand le pape François s'adresse à la Silicon Valley. C'est signé par Mélinée Lepriol. Le pape François a pris la parole depuis le Vatican dans le cadre d'une des conférences prisées du monde des startups, la TED Conference de Vancouver. Alors, cet auditoire de Vancouver à la TED Conference a eu droit à une intervention papale. Le pape a invité les participants à profiter de leur influence pour mettre en œuvre une révolution de la tendresse, entre guillemets, organisée dans plusieurs villes du monde. Les conférences TED, Technology, Entertainment and Design, sont un rendez-vous incontournable de l'innovation technologique et s'adressent en priorité à un public issu du monde des startups. Les intervenants que ces conférences accueillent sont donc plus souvent des scientifiques ou des entrepreneurs que de hauts dignitaires religieux. Mais le pape François a pourtant pris part à cette conférence TED de Vancouver, rapporte le journal La Croix. Filmée depuis le Vatican, cette apparition surprise sur grand écran a d'emblée provoqué les applaudissements du public. Dans le site de la radio AM News 1130, on nous rapporte qu'un nouveau rapport indique que le nombre de décès chez les sans-abri de Colombie-Britannique a atteint des niveaux records, donc un triste record a été battu. Ce rapport qui a été piloté par le Megaphone Magazine, un magazine qui est écrit et distribué par des sans-abri. Donc ce rapport fait état d'une augmentation des décès de sans-abri dans la province. Ce sont les derniers chiffres en date. Il semble désormais qu'un sans-abri décède chaque semaine dans la province de Colombie-Britannique. On parle de hausse de 40% par rapport à d'anciens records qui avaient été établis en 2008. Donc la situation est critique et évidemment la crise de surdose aux opioïdes est sans doute un facteur dans cette recrudescence des décès de sans-abri. Vous trouverez cette nouvelle sur le portail de News 1130. Number of homeless deaths in BC hits record high. On va se transporter dans les colonnes du Vancouver Sun à présent, qui nous rapporte la mise en place d'une route solaire, donc une route qui comporte des panneaux solaires sur sa surface, panneaux qui peuvent alimenter des installations. C'est du côté de Kamloops, nous indique le Vancouver Sun. La Thompson Rivers University a mis en place un projet pilote de route électrique solaire. Le projet s'appelle Solar Compass Project. C'est piloté par Michael Mehta. Et le système en place sur le pavé permet de produire assez d'énergie pour faire fonctionner 40 ordinateurs, 8 heures par jour, 365 jours par année. Donc, fort intéressant ce projet à l'énergie solaire que nous signale le Vancouver Sun. Solar Road Surface to be tested in Kamloops. On poursuit cette revue de presse provinciale, mais cette fois un peu plus près de chez nous. Search underway after Oak Bay home invasion. Donc, une invasion de domicile survenue cette semaine, le 25 avril, à Oak Bay. Un homme a pénétré dans une résidence d'Oak Bay et a blessé une femme. Et la police est toujours à la recherche de l'auteur de ce crime. On a peu de développement aujourd'hui, 26 avril, dans les médias à ce sujet. Le maire d'Oak Bay a salué la réponse rapide des forces de police. Les forces de police n'ont pas fourni d'informations nouvelles à propos de leur recherche. L'homme qui a perpétré cette invasion de domicile est toujours recherché par les services de police de la grande région de Victoria. On parle d'un homme costaud dans la vingtaine. Il a agressé cette femme à son domicile avec une arme blanche. Vous trouverez des nouvelles là-dessus un peu partout dans les médias locaux. Dans le portail News 1130, le titre de l'article, c'est « Search underway after Oak Bay home invasion ». Et toujours dans le portail de News 1130, on nous signale que le géant des télécommunications Rogers va faire l'acquisition d'une station AM, une fréquence AM. Il s'agit de CISL du côté de Vancouver. Rogers veut transformer cette station en une radio complètement consacrée au sport. Donc, c'est du AM parlé, consacré entièrement au sport. Cette transaction, oui, demeure sujette à l'approbation du CRTC. Donc, voilà, Rogers to launch all sports radio station in Vancouver. Et finalement, je tiens à vous signaler, pour ceux qui aiment le vélo et le transport actif, une vidéo fort intéressante sur les manières par lesquelles Vancouver est devenue une ville accueillante pour les cyclistes. C'est dans le blog Biking Toronto et ça s'intitule « 10 ways Vancouver got people out of their cars ». Donc, 10 trucs que Vancouver a utilisés pour faire en sorte que les gens adopte le transport actif. C'est une vidéo de témoignage sur le site de Biking Toronto. Ainsi se termine le petit tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause. Au retour, on s'intéresse à la météo des prochains jours. Et juste après la météo, nous faisons le point avec Ratna Bullock de l'Agence du revenu du Canada à propos de la saison des impôts qui bat son plein actuellement avec un deadline qui approche très vite, le 30 avril. Restez à l'écoute.
Le bonheur, c'est pas bon pour le reste. Ça empêche la recherche, ça pousse à la routine, ça fournit l'endorphine qui endort le veilleur. Ça y est, je repars. Je pars parce que j'ai besoin de voir plus loin. Toi, bien sûr, tu dis reste, mais je pars et je suis la branche sur laquelle je suis assis. Je déteste être assis, je déteste. Ce n'est pas qu'elle n'est pas belle, notre histoire, ni qu'elle n'est pas sincère, ni qu'il n'y ait des joies réelles. Mais c'est toujours la même, le monde est si vaste et nous, on s'enterre. On est devenus des plantes en pot, des fleurs en plastique. On peut nous donner des tonnes d'eau et des wagons d'antibiotiques. On sera jamais que des plantes en pot, des papillons sans ailes, des ex-rebelles qui payent des impôts. Ça y est, je repars. Je repars. L'ourlet d'une lèvre jamais vue, le son d'une phrase jamais dite, et tous ces cadeaux inconnus. J'ai besoin d'être seul pour ne pas l'être au fond. J'ai besoin d'un chemin, pas d'un manège en rond. Moi je dis libre, toi tu dis chute. Je pars parce que la chute, c'est bien plus fort que l'équilibre. C'est bien plus fort. C'est bien plus fort. On peut nous donner des tonnes d'eau et des wagons d'antibiotiques. On sera jamais que des plantes en pot, des papillons sans ailes, des ex-rebelles qui payent des impôts. Ça y est, je m'en pars. Ça y est. Je repars.
C'était l'auteur-compositeur-interprète Daran avec la pièce « Je repars » dans l'émission « Le débrief ». Merci d'être à l'écoute de votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. On va s'intéresser à la météo. On va consulter tout de suite le site de météo.gc.ca, Environnement Canada pour les intimes, et voir ce que nous annoncent les prévisions de la météo. On a actuellement 14 degrés pour ceux qui nous écoutent en direct en fin de journée du 26 avril. Ça va se compliquer un petit peu en soirée. Il y a une probabilité d'averse et un ennuagement. La probabilité d'averse, toutefois, est très mince, à seulement 30 %. Demain, on se réveille avec un mélange de soleil et de nuages. Demain, 27 avril, maximum de 13 degrés. La probabilité d'averse demeure stable à 30 %, donc demain, 27 avril. Et ça se dégage. Bonne nouvelle pour le vendredi 28 avril. Encore une fois, un maximum de 13 degrés. Et en poussant un petit peu plus loin dans les pronostics qui émet Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca, on a un samedi nuageux avec une probabilité d'averse à 30 %, encore une fois, un maximum de 11 degrés au mercure. Et pour dimanche, c'est sensiblement la même chose. Maussade, 15 degrés. 30 % de probabilité d'averse. Donc voilà pour les prévisions de la météo. Dans un instant, dans l'interview du jour au débrief, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Ratna Bullock, une agente de ressources techniques de Revenu Canada, qui va nous donner quelques infos sur les impôts, notre déclaration d'impôts. Certains d'entre nous n'avons pas encore rédigé notre déclaration d'impôts. Donc ce sont des petits trucs et astuces, informations utiles, ressources à trouver sur le portail de l'agence du Revenu du Canada. Tout ça, ce sera résumé dans un instant dans cette interview avec Ratna Bullock. Restez à l'écoute. Vous écoutez CILS FM 107,9. Il est presque 17h. Alexis Gagnon au micro. J'ai le plaisir de m'entretenir à présent avec Ratna Bullock. Bonjour Ratna.
Bonjour monsieur.
Vous êtes agente de ressources techniques à Revenu Canada et aujourd'hui, on va parler de la saison des impôts. On est en plein dans le dernier droit avant la remise des déclarations d'impôts. Alors, j'ai quelques questions pour vous si vous voulez bien vous prêter au jeu. La première question, c'est peut-être une question qui va sembler évidente à certains. Est-ce qu'il est trop tard pour rédiger sa déclaration d'impôts?
En général, au Canada, la date limite pour produire la déclaration est le 30 avril. Mais étant donné que le 30 avril était un dimanche cette année-ci,
oui,
on a jusqu'au minuit pour envoyer la déclaration et payer un solde le 1er mai.
Ah, le 1er mai, OK, c'est ce que vous disiez. Ouais. Donc, étant donné que c'est dimanche, on laisse aux contribuables la possibilité de déclarer le lendemain.
Exactement.
OK, formidable. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont pris un petit peu de retard. Est-ce que c'est grave si on déclare ses revenus avec un peu de retard, une semaine, deux semaines?
C'est toujours avantageux de le faire à temps, dans le sens que si vous avez un solde, vous éviterez de payer une pénalité pour production tardive.
Oui.
Si vous avez droit à un remboursement, vous le recevrez à temps. Ou si vous êtes éligible pour des prestations, à ce moment-là, on peut faire le calcul à temps et vous le recevrez à date.
D'accord. Donc, c'est surtout ceux qui doivent de l'argent au gouvernement, donc qui ont un solde à payer, qui peuvent s'exposer à des pénalités.
Exactement. Si la déclaration est faite en retard, oui, vous avez comme une pénalité pour production tardive si vous avez un solde.
D'accord. D'accord. Et puisqu'on est justement plusieurs à travailler à titre d'entrepreneur personnel, à titre de travailleur autonome, est-ce que c'est possible de donner un petit peu le détail des dates pour les travailleurs autonomes? Est-ce que les travailleurs autonomes doivent remettre leur déclaration à la même date que les salariés?
Le travailleur autonome et leur époux ou conjoint de fait doivent envoyer leur déclaration au plus tard le 15 juin, mais tout solde impayé est dû le 30 avril cette année-ci. C'est le 1er mai à minuit.
D'accord. Donc, des intérêts s'appliquent, j'imagine, si on paye après le 30 avril, c'est-à-dire le 1er mai à minuit.
Oui, monsieur.
OK. Donc, voilà pour la distinction entre les travailleurs autonomes et les salariés. Bon, il y a des gens qui n'ont même pas commencé à produire leur déclaration de revenus. Il y a des gens qui ont pris du retard. Est-ce que c'est facile de faire ses impôts soi-même aujourd'hui en 2017? Par exemple, si on travaille à titre de salarié, est-ce que c'est relativement facile? Est-ce qu'on peut s'attaquer à ça à quelques jours seulement de la date butoir?
Plusieurs services en ligne sont disponibles pendant la période des impôts.
Oui.
Pour commencer, vous pouvez visiter le site web de l'agence asc.gc.ca/préparez-vous.
Oui.
L'ORC a publié aussi une liste de logiciels dont certains sont gratuits. C'est une bonne aide aussi. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter asc.gc.ca/imponet.
D'accord. Donc, les ressources sont vraiment disponibles sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Pas besoin
oui.
de se rendre sur des sites qui seraient tenus par des particuliers ou des entreprises privées. On retrouve vraiment une somme d'informations utiles sur le site de l'agence. C'est ce que vous me dites.
Exactement. Et si, nous avons aussi beaucoup d'aides qui sont disponibles par la communauté volontaire qui font des rapports d'impôts qui pour des personnes à faible revenu.
Oui.
Ça aussi, c'est sur le site de l'agence Revenu qui donne beaucoup d'explications.
Ah oui, donc il y a des bénévoles qui sont répertoriés à l'échelle du Canada avec lesquels on peut entrer en contact où que l'on soit. Par exemple, ici à Victoria, je pourrais me rendre sur le site de l'agence du revenu du Canada et trouver les bénévoles qui sont dans ma région.
Exactement. D'où sont le bureau.
D'accord. OK. Donc, ce sont des bénévoles qui ont reçu une accréditation de Revenu Canada. Est-ce qu'ils sont fiables?
Ils sont fiables parce qu'il y a beaucoup de vérifications que l'agence font avant de leur donner leur OK, avant d'aller de l'avant.
D'accord. Et règle générale, si on confie ses impôts à un ami, un membre de notre famille ou à une connaissance, comment savoir si la personne qui s'occupe de rédiger notre déclaration est compétente?
Là, c'est un choix que vous devez faire. Mais juste pour savoir que pour traiter avec votre représentant, il faut que l'agence ait l'autorisation en écrite de votre part avant de traiter avec eux.
OK, oui. Donc, cette personne-là va nous faire signer une décharge lors de la rédaction du rapport d'impôt, c'est ça?
Oui.
OK. Très bien. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des conseils sur le site de l'agence pour si on n'a pas pu mettre la main sur un bénévole et qu'on manque de temps pour produire sa déclaration, est-ce qu'il y a des conseils sur la façon de trouver les personnes les plus sûres, les plus fiables?
Le site de l'agence ne donne pas des conseils sur quel représentant vous devez choisir.
Mmh.
Vous devez faire la recherche vous-même si vous choisissez de prendre un représentant. Mais juste que si vous décidez que l'agence traite avec votre représentant, il faut que vous donnez l'autorisation au représentant.
D'accord.
En plus, il y a beaucoup d'informations sur le site web de l'agence. Si vous voulez aller n'importe quelle ligne, vous voulez vous renseigner.
Oui.
Vous n'avez qu'à frapper la ligne et ça correspond au. Vous allez avoir plusieurs renseignements sur la ligne que vous voulez déclarer ou prendre comme une déduction.
Pouvez-vous rappeler l'adresse du portail de l'agence?
asc.gc.ca.
D'accord. Alors. Le désir de tous les contribuables, qu'ils soient travailleurs autonomes ou salariés, c'est vraiment d'obtenir le plus de déductions d'impôts possible, j'imagine. Ça permet de réduire le versement en bout de ligne. Est-ce que c'est possible d'indiquer des différences entre les travailleurs autonomes et les salariés par rapport aux déductions auxquelles ils ont droit?
Alors, les critères sont vraiment différents.
Oui.
Pour les travailleurs autonomes et les salariés, nous avons des diverses informations en ligne sur le site de l'agence. Si les travailleurs d'entreprise veulent aller visiter le site, c'est dépenses d'entreprise. Pour les travailleurs salariés, il y a plusieurs dépenses qui sont déductibles d'impôts, dépendant de leur situation. Certaines dépenses sont des dépenses directes, comme le frais de garde d'enfants, tandis que d'autres sont des crédits non remboursables, comme le crédit pour les conditions physiques des enfants. Ça, ce sont des exemples seulement, il y en a plusieurs. Pour en savoir plus, consultez le site de l'agence asc.gc.ca/dépenses d'emploi.
D'accord, ben voilà qui complète ce petit tour d'horizon. Un grand merci Ratna Bullock pour ces informations en pleine saison des impôts. On est dans le dernier sprint, il reste quelques jours. Grand merci pour ces infos et au plaisir de se reparler.
Merci Alexis.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Vous écoutez CILS FM, la voix de votre communauté.
Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à Vandruna, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je veux partir ou pas. Quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque ton bras se s'égare. Je ne ferai point d'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Quand tu ne m'appartiens pas. Attache les bras. Quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Prévoyeur en redemande, moi je ne veux que Una. Les plus belles des plus belles jambes et de la place pour toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça. Tu ne m'appartiens pas.
La fleur bleue rougit de honte. Que se passe-t-il dans son pistil? Frêle fleur bleue, elle est prompte à se parfumer d'exil. Sur la terre, trop de trombes, encore se battre, encore souffrir. Encore un pétale qui tombe, la fleur bleue veut plus fleurir. Baladons-nous encore un peu. Il se pourrait que dans parmi tant de chardons méchants. Elle se cache comme elle peut. La fleur bleue, à peine éclose, voyez du rose dans la vie. Son roman à l'eau de rose est décidément flétri. L'innocence n'est plus de mise, les illusions de pureté ont bouclé toutes leurs valises. La fleur bleue s'y est jetée. C'est une loi de la nature, à l'envers de l'ange, le démon. Ils ne battent plus les cœurs purs que Jean-Roger Cosimon. Baladons-nous encore un peu à travers les charbons ardents. Encore un pas, serrons les dents. Elle attend peut-être nos yeux. Comme un musicien attend, face au fin fond des cieux, face au désert de son chant, la blue note, la note.
Salut Victoria, vous écoutez CLS FM 107.9, votre radio communautaire francophone.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fisch. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage.